Place Info.
Bonsoir Thomas Négaroff.
Bonsoir Céline.
Un coup d'œil dans le rétro avec vous parce que Mugabe, c'est le symbole d'une certaine histoire de l'Afrique, une Afrique d'abord qui a lutté pour son indépendance.
Ouais, de quoi Robert Mugabe est-il le nom? Vous l'avez dit, hein. Il y a deux Robert Mugabe. Il y a effectivement un Robert Mugabe héroïque, hein. C'est celui qui passe des années en prison dans la lutte dans ce qu'on appelait à l'époque la Rhodésie du Sud contre la colonisation britannique dans un pays très particulier qui ressemble un peu à l'Afrique du Sud puisque vous avez une minorité blanche qui a tous les pouvoir face à une majorité noire qui n'en a aucun. Il va lutter. Et à la fin des années 1970, lorsque les Américains, sous l'égide américaine, on va faire un plan qui s'appelait le plan Zimbabwe, dans lequel il devait y avoir un partage des pouvoirs entre les blancs et les noirs, et bien des plus radicaux, dont lui, vont rester dans l'opposition, vont rester notamment au Mozambique pour obtenir tous les pouvoirs pour les Noirs. Et en 1980, il est nommé à la tête du gouvernement, Premier ministre. Vous allez l'entendre, on est en 1980, François Mitterrand n'est pas encore élu. En revanche, il y a des choses qui ne changent pas. C'est la voix du journaliste français. Vous allez écouter.
Robert Mugabe a été chargé de former le gouvernement du futur État indépendant du Zimbabwe, un nom qui va remplacer celui de Rhodésie. Robert Mugabe est marxiste. Il est le chef de la principale armée de guérilla. Sa victoire inquiète bien sûr les 230 000 blancs de Rhodésie, même si la nuit dernière il a pris la parole à la télévision pour appeler au calme dans tout le pays.
Alors, vous avez reconnu Jean-Pierre Pernaut.
Bien sûr.
Et là, vous reconnaissez derrière moi peut-être le début de Zimbabwe, la chanson de Bob Marley. Et si je l'ai choisi, c'est parce qu'on était là au son du journal en mars 1980 et en avril est annoncée officiellement la naissance du nouvel État dans un stade Harare immense et en joie, on peut l'imaginer. Robert Mugabe est le héros de l'indépendance et Bob Marley est invité et il chante sa chanson. Vous voyez, c'est ça aussi Robert Mugabe, bien sûr. On va évoquer après la face beaucoup plus sombre de sa présidence, mais voilà l'image qu'il a pu avoir pendant très longtemps sur le continent africain, avec en plus une image de leader potentiel du panafricanisme, de l'unité de tous les Africains, parce que Robert Mugabe avait aussi cela. Il né, et c'est pas inutile de le rappeler, il a aussi acquis l'indépendance du dernier pays colonisé d'Afrique, avec donc une dimension symbolique extrêmement forte.
Et cette image, cette stature de héros salué par tous, de héros de l'indépendance, il s'en est beaucoup servi.
Ah oui.
Il s'en est servi politiquement. Hein.
Ah oui, il va jouer vraiment avec cette image jusqu'au bout, jusqu'à la corde. Par exemple, en 2000. Alors, il se représente une énième fois à la présidence de la République. Au départ, il avait dit qu'il le ferait pas, et puis il se représente évidemment à la présidence. C'est compliqué pour lui, hein. Il y a des manifestations, il y a des oppositions. Eh bien, à nouveau, il va ressortir la carte du héros de la colonisation. Bien sûr, il y a plus de colons officiellement, il y a plus de Grande-Bretagne. Alors, on réinvente une guerre de colonisation. C'était notamment évoqué dans un journal de France 2.
La restitution des terres sans indemnisation, c'est l'argument choc de sa campagne électorale. Mugabe lance un appel public pour que davantage de fermes soient occupées. Il se dit même prêt à ouvrir une deuxième guerre avec la Grande-Bretagne, l'ancien colonisateur.
Il faut que la Grande-Bretagne comprenne qu'elle reconnaisse sa responsabilité coloniale en ce qui concerne le problème de la terre.
Vous voyez comment il réactive cette histoire, son histoire, sa légitimité. C'est pas le seul chef d'État africain à l'avoir fait, mais lui l'a fait sur une très longue durée. Il évoquait, vous avez entendu, une deuxième guerre. C'est pour ça que tout à l'heure vous disiez que les Anglais sont pas absolument ravis et veulent pas célébrer Robert Mugabe le jour de son décès. On comprend aussi pourquoi.
Il faut dire aussi que Robert Mugabe, après avoir basculé, hein, vous l'avez dit, il est devenu une sorte d'incarnation des dérives de l'Afrique postcoloniale.
Oui, vraiment. Il a incarné deux choses. Il a donc incarné la lutte pour la décolonisation, une image plutôt belle et brillante, et puis en tout cas du point de vue des Africains, et puis une image beaucoup plus sombre, celle effectivement, Amnesty International a comptabilisé des dizaines de milliers de personnes torturées, disparues pendant les 40 ans quasiment de son règne sans partage sur le pays, du népotisme, hein, sa femme était richissime, lui aussi il a fini avec une fortune estimée à 20-25 millions de dollars, ce qui est énorme dans un pays extrêmement pauvre, exsangue, qu'il a laissé effectivement dans un état de déliquescence totale, une inflation galopante, une espérance de vie qui s'est effondrée en raison d'un sida qui n'a jamais pu être traité en raison de la pauvreté endémique, et lui une fortune, je l'ai dit, hein, personnelle extraordinaire. Donc il y a effectivement là, on voit, hein, aussi une incarnation d'une Afrique postcoloniale qui, parfois, pas toujours, mais parfois, a pu prendre effectivement des détours qui n'étaient pas ceux promis au moment de l'indépendance. Quand on écoute les discours de Mugabe en 1980 et quand on voit la réalité du Zimbabwe quand il a quitté le pouvoir en 2017, on mesure le chemin parcouru par l'homme.
Avec des fêtes d'anniversaire somptueuses, hein, paraît-il, oui, qui tranchaient avec la situation économique du pays. Merci beaucoup Thomas Negaroff. Histoire d'info tous les soirs dans le 17-20 de France Info.